bien, je crois que l'heure est venue d'entamer notre deuxième conférence de ce cycle de l'Avent, conférence qui porte donc sur la prière, en sachant que le thème qui nous occupera ce soir, eh bien, ce thème sera celui du rapport entre la prière et la nature humaine, puisque la question qui va nous occuper est la suivante: est-il naturel de prier ? Alors, en introduction, peut-être qu'il peut être intéressant de savoir pourquoi on se pose une question comme celle qui va nous occuper ce soir. Est-il naturel de prier ? Pour le savoir, le mieux est de reconnaître pourquoi cette question se pose, c'est-à-dire pourquoi la situation dans laquelle nous nous trouvons amène à se poser cette question. Et quelle est cette situation dans laquelle nous nous trouvons ? Cette situation de notre culture, de notre société, de notre monde, et qui fait que cette question se pose, est-il naturel de prier ? Eh bien, cette situation, nous le savons, porte le nom de sécularisation. Reconnaître que nous vivons dans un monde qui est sécularisé, c'est reconnaître une situation assez inédite dans l'histoire humaine, qui est la situation suivante, hein, sous nos latitudes, parce que ça n'est évidemment pas du tout vrai sous d'autres latitudes, nous vivons dans un monde où des franges très importantes de populations entières n'ont aucune des attitudes ou aucun des comportements dont on s'accorde à dire que ce sont des démarches de type religieux. Par exemple, beaucoup de personnes ne connaissent pas la prière, peuvent passer une existence entière sans connaître l'expérience de la prière. Beaucoup de personnes n'accompagnent pas les grands moments de leur vie de rites religieux ou ne se reconnaissent dans aucune des grandes religions. Alors, cette situation fait qu'il est impossible d'en déduire quoi que ce soit concernant leurs opinions ou leurs croyances au sujet de Dieu, car les opinions, les croyances sont intérieures. Et ici, nous parlons de manifestations extérieures de la prière, comme par exemple des rassemblements pour un culte en commun, ou par exemple une prière de bénédiction de la table, ou même une prière accomplie seule dans sa chambre. Mais ce qui est sûr et certain est que beaucoup de nos contemporains, en Europe et ailleurs, mais parlons surtout de l'Europe, ne présentent aucun des signes dont on s'accorde unanimement à dire qu'ils relèvent de l'expression d'une démarche religieuse, signe dont la prière fait partie. Étant donné que cette situation, historiquement, s'est produite chez des peuples dont la religion majoritaire était la religion chrétienne, un tel constat, donc celui de la sécularisation, pourrait faire naître dans les esprits l'idée suivante, dont on comprend bien qu'elle vienne à l'esprit, mais qui doit tout de suite être corrigée. Et cette idée peut être formulée ainsi: si les pratiques religieuses refluent en même temps que le christianisme, cela veut dire que toutes ces pratiques religieuses s'expliquent par le seul christianisme. Sans la foi chrétienne, l'homme est sans comportement religieux. La prière est chrétienne ou elle n'est pas du tout. Pourquoi cette idée doit très vite être rectifiée ? Parce qu'elle fait l'impasse sur un aspect très important des choses, et c'est cet aspect qui fera précisément l'objet de la conférence de ce soir. On oublie ainsi en effet que, du point de vue de la foi chrétienne, l'appartenance religieuse au christianisme n'est pas la seule cause du fait que l'être humain prie. Le chrétien prie parce qu'il est chrétien, mais d'abord parce que c'est un être humain. C'est ce que nous verrons donc dans un premier temps, qui sera consacré à voir en quoi la prière, en un sens, s'enracine dans la nature de l'homme. Dans un deuxième temps, nous pourrons ainsi constater l'existence de la prière en dehors de la religion chrétienne et des autres religions qui se veulent révéler. Enfin, nous verrons en quoi la prière chrétienne n'est pas simplement un épanouissement de l'homme, mais qu'elle est véritablement une prière révélée. Premier moment donc de notre exposé de ce soir, l'homme, un être donc qui est naturellement priant. L'homme, un être naturellement priant. Qu'est-ce qui permet d'affirmer cela ? Ce qui permet d'affirmer cela du point de vue de l'enseignement de l'Église catholique, eh bien, c'est qu'il appartient à la nature de l'homme d'être orienté vers Dieu et vers la relation à Dieu. Le catéchisme de l'Église catholique le formule ainsi, et ce, dès les premières pages. Ce sont les numéros 27 et 28 du catéchisme de l'Église catholique que je peux vous lire. Le désir de Dieu est inscrit dans le cœur de l'homme, car l'homme est créé par Dieu et pour Dieu. Dieu ne cesse d'attirer l'homme vers lui, et ce n'est qu'en Dieu que l'homme trouvera la vérité et le bonheur qu'il ne cesse de chercher. Et là, le catéchisme cite un texte du Concile Vatican II, de la constitution pastorale du Concile Vatican II, Gaudium et Spes, qui dit ceci. L'aspect le plus sublime de la dignité humaine se trouve dans cette vocation de l'homme à communier avec Dieu. Cette invitation que Dieu adresse à l'homme de dialoguer avec lui commence avec l'existence humaine. Car si l'homme existe, c'est que Dieu l'a créé par amour, et par amour ne cesse de lui donner l'être. Et l'homme ne vit pleinement selon la vérité que s'il reconnaît librement cet amour et s'abandonne à son Créateur. Le catéchisme poursuit. De multiples manières, dans leur histoire et jusqu'à aujourd'hui, les hommes ont donné expression à leur quête de Dieu par leurs croyances et leurs comportements religieux, prières, sacrifices, cultes, méditations, etc. Malgré les ambiguïtés qu'elles peuvent comporter, ces formes d'expression sont si universelles que l'on peut appeler l'homme un être religieux. Fin de citation du catéchisme. Cette affirmation, donc, qui porte sur la nature même de l'homme, est très forte et permet de mieux saisir ce que notre situation contemporaine a d'inédit. En effet, s'il appartient à la nature de l'homme d'être religieux, cela veut dire que la sécularisation ne touche pas simplement l'homme contemporain dans son rapport à la foi chrétienne, mais touche l'homme contemporain dans sa nature même, dans son humanité. Un être humain qui n'exprime plus dans sa vie, comme c'est le cas de l'homme sécularisé, cette quête de Dieu qui se manifeste dans des formes religieuses et donc aussi dans la prière, eh bien cet être humain passe à côté non seulement de la foi chrétienne, mais aussi de sa nature humaine, en tout cas d'une de ses dimensions fondamentales. Que l'homme soit par nature, et non pas simplement donc par culture, religieux, permet de dire que l'être humain n'est pas uniquement un homo sapiens sapiens, donc caractérisé par l'intelligence, la conscience, le savoir. L'être humain n'est pas simplement un homo faber, un être capable de fabrication, qui soit caractérisé par la technique, par l'art. L'être humain n'est pas simplement un homo economicus, un être capable de relations économiques. Ça n'est pas simplement un homo politicus, c'est-à-dire un être qui vit dans des cités. Mais l'être humain est aussi, peut être défini comme homo religiosus, comme être religieux, et même comme homo orans, comme homme priant. Voilà. Homo orans. Or, il faut se demander pourquoi appartient-il à la nature de l'homme d'être un homo orans, c'est-à-dire un homme priant. Qu'est-ce qu'il explique? On peut identifier trois éléments qui appartiennent à la nature de l'homme et qui rendent compte de cela. D'abord, l'homme est une créature. Il n'est pas le créateur. Il reconnaît donc qu'il y a un être au-dessus de lui, qui lui est donc transcendant, et à qui il peut demander de l'aide pour sa vie. Surtout que la nature de l'homme est marquée par le péché originel et par ses conséquences. L'homme se tourne donc vers Dieu comme vers une providence, afin que Dieu lui donne ce qu'il ne peut pas se donner lui-même. L'homme est donc porté, de ce fait-là, à adresser des demandes à Dieu. Et c'est vrai que c'est le sens premier de la prière, même du terme de prière dans la langue courante, c'est que la prière est une prière de demande. Par exemple, quand on dit prière de vous asseoir ou prière de ne pas faire de bruit, eh bien, c'est l'expression d'une demande. Et donc c'est vrai que l'homme, étant donné qu'il n'est qu'une créature, eh bien, se tourne vers Dieu comme un être qui est plus grand, plus puissant que lui, et à qui il peut demander ce qu'il n'obtient pas par lui-même. Deuxième réalité qui appartient à la nature humaine et qui explique qu'il soit dans cette nature que l'homme prie Dieu, eh bien, c'est que l'homme étant créé par Dieu, eh bien, l'homme est habité d'une aspiration qui consiste à être en relation avec Dieu. L'homme est attiré par Dieu et veut le rejoindre, avoir une interaction avec lui. Et donc ici, la prière remplit une fonction de communion. Par la prière, l'homme est en communion avec Dieu. Et enfin, l'homme, nous le savons, se caractérise comme étant doué de raison, mais comme étant doué donc par conséquent de parole. L'homme est un être qui a le logos, qui a cette capacité de parler, d'exprimer ses pensées par la parole. L'homme est un être qui parle, et Dieu est personnel. L'homme est donc enclin à parler à ce Dieu, à le prier grâce à sa capacité de parler, bref, à sa capacité d'entrer avec Dieu dans un dialogue. Et ici, la prière remplit une fonction de communication. Demande, communion, communication. Ce sont peut-être les trois dimensions de la prière comme étant expression de la nature de l'homme. Et à ce sujet, le pape Benoît XVI, dans une catéchèse du 11 mai 2011, disait ceci, la citation est un peu longue, mais vous verrez qu'elle est complète et qu'elle ressaisit tout ce qu'on essaye de dire dans ce premier moment. Je cite, « L'image du Créateur est imprimée dans l'être de l'homme, et donc l'homme ressent le besoin de trouver une lumière pour donner une réponse aux questions qui concernent le sens profond de la réalité, réponse qu'il ne peut trouver en lui-même dans le progrès, dans la science. L'homo religiosus, donc l'homme religieux, ne ressort pas seulement des mondes antiques, il traverse toute l'histoire de l'humanité. À ce propos, le riche terrain de l'expérience humaine a vu naître diverses formes de religiosité dans la tentative de répondre au désir de plénitude et de bonheur, aux besoins de salut, à la recherche du sens. L'homme numérique, tout comme celui des cavernes, cherche dans l'expérience religieuse le moyen de dépasser sa finitude et d'assurer son aventure terrestre précaire. D'ailleurs, c'est beau parce que précaire, c'est justement la racine de la prière. Une existence qui est précaire, c'est une existence qui sait qu'elle dépend en un sens de la prière et du fait que la prière soit exaucée. D'ailleurs, sans un horizon transcendant, la vie perdrait son sens plénier. Et le bonheur auquel nous tendons tous est projeté spontanément vers l'avenir dans un lendemain qui reste encore à réaliser. L'homme sait qu'il ne peut répondre seul à son besoin de comprendre. Même s'il a nourri et nourrit encore l'illusion de se suffire à lui-même, il fait l'expérience de ne pas se suffire à lui-même. Il a besoin de s'ouvrir à autre chose, à quelque chose ou à quelqu'un qui puisse lui donner ce qui lui manque. Il doit sortir de lui-même pour aller vers celui qui est en mesure de remplir l'ampleur et la profondeur de son désir. L'homme porte en lui une soif d'infini, une nostalgie d'éternité, une recherche de beauté, un désir d'amour, un besoin de lumière et de vérité qui le pousse vers l'absolu. L'homme porte en lui le désir de Dieu. Et l'homme sait d'une certaine façon qu'il peut s'adresser à Dieu, il sait qu'il peut le prier. Saint Thomas d'Aquin, l'un des plus grands théologiens de l'histoire, définit la prière comme, je cite, « l'expression du désir que l'homme a de Dieu », l'interprète du désir que l'homme a de Dieu. Cette attraction vers Dieu, que Dieu lui-même a placée dans l'homme, est l'âme de la prière, qui revêt ensuite tant de formes et de modalités selon l'histoire, le temps, le moment, la grâce et même le péché de chaque orant. L'histoire de l'homme a en effet connu diverses formes de prière, car il a développé différentes modalités d'ouverture vers l'autre et vers l'au-delà, si bien que nous pouvons reconnaître la prière comme une expérience présente dans chaque religion et culture. Fin de citation. Mais comment cette nature de l'homme se manifeste-t-elle concrètement dans l'histoire des hommes? Quelles sont les expressions culturelles de cette nature religieuse? C'est le deuxième moment de notre conférence de ce soir, donc après un premier moment consacré à voir en quoi l'homme est par nature un être priant, l'homme un être naturellement priant, eh bien le deuxième moment consiste à voir en quoi la prière est une expérience religieuse universelle qui se retrouve en fait dans toutes les religions. Les chrétiens font ce constat que tout le monde peut et doit faire du reste, eh bien les chrétiens n'ont pas le monopole de cette activité qu'est la prière. Au sens où quand les chrétiens entrent en relation avec les différentes cultures présentes sur notre terre, eh bien ils font l'expérience répétée que la prière est présente dans beaucoup d'autres religions en dehors de tout lien avec la révélation. Le Concile Vatican II, dans la déclaration qu'il comprend sur les relations de l'Église avec les religions non chrétiennes, déclaration qui porte ce titre de Nostra Aetate, qui date donc de 1965, au numéro 2 de ce texte, le formule en ces termes. Depuis les temps les plus reculés jusqu'à aujourd'hui, on trouve dans les différents peuples une certaine perception de cette force cachée qui est présente au cours des choses et aux événements de la vie humaine. Parfois même une reconnaissance de la divinité suprême ou même d'un père. Cette perception et cette reconnaissance pénètrent leur vie d'un profond sens religieux. Donc ce constat que parmi les différents peuples, il y a ce sens religieux qu'on peut caractériser comme étant cette perception d'une force cachée mais qui est présente au cours des choses. Là, c'est le rôle très important de la providence. Parce qu'effectivement, l'expérience de Dieu, c'est l'expérience de Dieu comme celui qui, non seulement, encore une fois, existe, mais qui se rend présent à notre vie et qui accompagne nos activités, nos projets, et donc qui se montre provident. Le théologien français, donc mort en 1974, Jean Danielou, avait à ce propos écrit en 1955 un livre au titre significatif, un petit peu accrocheur, titre qui est le suivant, « Les saints païens de l'Ancien Testament », dans lequel il étudiait ces figures considérées comme vénérables, comme des références de sainteté, qui jalonnent donc l'Ancien Testament, mais qui pourtant n'appartiennent pas au peuple de l'histoire du salut, de la révélation. Et c'est pour ça qu'il parlait de ces saints païens, entre guillemets, de l'Ancien Testament, comme peuvent l'être Abel, Enoch, Daniel, Noé, Job, Melchisédek, Lot et la reine de Saba. Autant de figures, encore une fois, qui ne sont pas membres du peuple élu, mais qui pourtant sont considérées par la Bible elle-même comme étant des références s'agissant de la relation à Dieu. Il est touchant, de ce point de vue, de se rappeler que dans le canon romain, donc dans la prière eucharistique numéro 1 à la messe, eh bien juste après la consécration, la prière liturgique donc de l'Église, à savoir cette prière très antique qu'est le canon romain, eh bien se formule dans les termes suivants d'ailleurs qui ont été révisés dans la nouvelle traduction du missel romain qui a accompagné ce début d'avant, et donc je vous les cite bien sûr dans cette nouvelle traduction, on se souvient de ce passage. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel, le juste, le sacrifice d'Abraham, notre père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour, et dans ta bienveillance, accepte-les. Donc, vous voyez, ce qui est très beau dans ce passage du canon romain, c'est qu'on cite bien sûr Abraham, c'est le début de la révélation, mais on cite aussi Abel, qui vient avant Abraham et qui n'a pas connu par définition la révélation abrahamique, et puis aussi Melchisédek, ce personnage mystérieux contemporain d'Abraham, mais qui n'appartient pas à la même histoire du salut, mais qui lui est comme latéral, enfin qui se trouve à côté de l'histoire du salut, et qui sont donc mentionnés, encore une fois, dans la prière de la messe. Mais nous trouvons aussi, en dehors de la Bible, des témoignages poignants de la prière qui monte du cœur de l'homme, indépendamment de tout lien avec la révélation biblique. Par exemple, on peut citer cette prière qui vient de l'ancienne Égypte et qui est faite par un homme aveugle qui demande à la divinité de lui rendre la vue. On en a un témoignage et cette prière est la suivante. « Mon cœur désire te voir, toi qui m'as fait voir les ténèbres, crée pour moi la lumière, fais que je voie, penche sur moi ton visage aimé. » C'est quand même saisissant de se dire que cette prière vient de l'Égypte ancienne. Et Benoît XVI, qui citait toujours dans ces catéchèses là dont j'ai parlé, qui citait ce passage, comment ainsi, hein, fais que je te vois, c'est là le cœur de la prière. Voyez. Ça vaut aussi pour les religions de Mésopotamie, où là aussi une prière qui manifeste le besoin qu'a l'homme d'être délivré de sa faute. Cette prière est la suivante, hein. Ô Dieu qui est indulgent, ô Dieu qui est indulgent même pour la faute la plus grave, absous ma faute. Regarde Seigneur ton esclave épuisé et souffle sur lui ta brise. Sans attendre, pardonne-lui. Allège ta sévère punition. Libéré de mes liens, fais que je recommence à respirer, brise mes chaînes, défais mes liens. Il y a aussi cette prière que le philosophe Platon met dans la bouche de Socrate, dans ce dialogue de Platon qui est le dialogue du Phèdre, où Platon met ses paroles dans la bouche de Socrate, hein, qui s'adresse au Dieu, hein, « Donnez-moi la beauté intérieure de l'âme. Quant à l'extérieur, je me contente de celui que j'ai, pourvu qu'il ne soit pas en contradiction avec l'intérieur. Que le sage me paraisse riche et que j'ai seulement autant d'or qu'un sage peut en supporter et en employer. » Il y a aussi cette très belle prière, toujours dans le monde grec, qui est extraite d'une tragédie d'Euripide, les Troyennes, et où on peut lire ceci, cette prière de l'homme qui s'adresse à Dieu. « Ô toi qui donnes le mouvement à la terre et qui en même temps réside en elle, qui que tu sois, Jupiter, impénétrable à la vue des mortels, nécessité de la nature ou intelligence des hommes, je te rends hommage, car par des voies secrètes, tu gouvernes toutes les choses humaines selon la justice. » Il y a aussi des témoignages chez les Romains, dans la religion antique romaine, par exemple chez cet auteur connu dans la littérature latine, qui s'appelle Apulée, dans les Métamorphoses, on voit un homme qui s'adresse à une divinité féminine à travers ses paroles. « Divinité sainte, source éternelle de salut, protectrice adorable des mortels, qui leur prodigue dans leurs mots l'affection d'une tendre mère. Pas un jour, pas une nuit, pas un moment ne s'écoule qui ne soit marqué par un de tes bienfaits. » Et puis aussi, une prière, enfin, qui est écrite par cet empereur romain qui est en même temps philosophe, Marc Aurèle, et qui est un conseil qu'il donne et qui n'a pas perdu de son actualité. Marc Aurèle écrit dans ses pensées « Qui te dit que les dieux ne nous aident pas également en ce qui dépend de nous? Commence donc à les prier et tu verras. » Mais donc même si la prière présente dans les religions antérieures à la révélation, eh bien, a des très belles richesses, des très belles richesses d'humanité, comme on vient de l'entendre, comme on en a eu des témoignages, il est clair que du point de vue de la foi chrétienne, la prière chrétienne n'est pas simplement un prolongement de la prière naturelle, de la prière qui sort donc de la nature religieuse de l'homme. Et donc c'est le troisième moment de notre réflexion de ce soir, la révélation de la prière. Voilà. Après, les témoignages de ce naturel religieux de l'homme au travers de cette expérience religieuse universelle qui était notre deuxième moment. La révélation donc de la prière. C'est le titre que porte le premier chapitre de la quatrième grande partie du catéchisme de l'Église catholique, partie qui est consacrée à la prière. Première partie consacrée à la foi, deuxième partie consacrée à la célébration de la foi, au sacrement, troisième partie qui est consacrée à la morale, à la vie chrétienne, et puis quatrième partie consacrée à la prière. Et donc le chapitre premier consacré à la prière commence par, s'intitule précisément, la révélation de la prière. En effet, pour un chrétien, la prière appartient à ce qui a été révélé par Dieu en Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle le Notre Père a une telle place pour nous. Car le Notre Père, c'est la réponse de Jésus, donc le Fils de Dieu fait homme, à une demande des apôtres qui est exprimée au verset 1er du chapitre 11 de Saint Luc, « Seigneur, apprends-nous à prier. » Et le Notre Père est la réponse de Dieu à cette demande de l'homme. La prière est donc révélée, la prière chrétienne, pardon, est révélée au sens où les mots mêmes par lesquels nous prions nous ont été donnés par Dieu fait homme. Ce dont, du reste, la prière des psaumes témoigne aussi, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles elle a une telle importance, même pour les chrétiens, alors que c'est une prière qui vient de l'Ancien Testament, parce que dans les psaumes, les paroles que donc nous adressons à Dieu sont des paroles qui ont été inspirées par lui. C'est-à-dire que nous prions avec la parole de Dieu. Nous prions Dieu à partir de la parole de Dieu. Ces paroles viennent de lui, elles passent par nous et elles retournent à lui. Notre prière chrétienne est donc de part en part une prière qui est révélée, en sachant bien sûr que la révélation de la prière culmine en Jésus-Christ lui-même, qui est la parole de Dieu faite chair, qui est donc la grande prière chrétienne, puisqu'il est le grand orant, il est le priant par excellence. Et donc la prière chrétienne, en un sens, vient se greffer sur cette prière qu'est le Christ en personne. Néanmoins, une fois qu'on a dit qu'on a rappelé que la prière chrétienne était essentiellement révélée, cela n'invalide pas pour autant tout ce qui a été affirmé jusque-là quant à l'enracinement naturel de la prière. Selon un principe essentiel en théologie que nous connaissons peut-être et dont la formulation est la suivante, hein, la grâce ne supprime pas la nature, mais la perfectionne. La grâce, dans son rapport à la nature, eh bien, vient perfectionner cette nature, mais elle ne la supprime pas. La grâce de la prière, parce que la prière in fine est une grâce, surtout que la prière chrétienne, c'est bien sûr c'est le Christ, mais c'est l'Esprit Saint qui est l'âme de cette prière. Donc la grâce de la prière suppose et requiert le naturel religieux de l'homme, mais ce qui est clair, c'est que ce naturel religieux ne suffit pas, d'autant qu'il est marqué par le péché originel, et ce péché vient déformer ce naturel dans un sens qui parfois est contraire à la vraie foi, comme on le voit bien, par exemple, pour l'idolâtrie, qui est une prière qui vient de l'homme, mais qui s'adresse dans son intention à Dieu, mais qui, dans sa réalisation, eh bien, s'adresse à autre chose que Dieu, sans parler, bien sûr, de toutes ces pratiques religieuses qui sont directement contraires à la nature humaine. Il suffit de penser, par exemple, aux sacrifices humains, aux malédictions, à toutes ces formes religieuses qui sont dirigées contre l'homme. La grâce, donc, est nécessaire pour perfectionner ce naturel religieux, c'est-à-dire pour le purifier, pour le corriger, parce que la nature laissée à elle seule peut avoir quelque chose de dévié. Par exemple, le pape Benoît XVI, toujours dans ses audiences de mai 2011, disait ceci, dans les exemples de prières des différentes cultures qu'il a pris en considération. On a fait tout ce panorama dans l'Égypte, dans la Mésopotamie, dans la Grèce, à Rome. Eh bien, il disait, dans tous ces exemples, nous pouvons voir un témoignage donc de la dimension religieuse et du désir de Dieu inscrit dans le cœur de chaque homme, qui trouve leur accomplissement et leur pleine expression dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. La révélation, en effet, purifie et porte à sa plénitude l'aspiration originelle de l'homme à Dieu, en lui offrant, dans la prière, la possibilité d'une relation plus profonde avec le Père Céleste. Donc il y a ce rapport entre grâce et nature qui fait que, en un sens, la prière est une réalité qui vient de la nature, mais en un autre sens, elle est une réalité qui vient de la révélation, qui vient de la grâce, et elle se trouve, la grâce se trouvant vis-à-vis de la nature, dans une relation qui fait qu'elle la requiert, elle en corrige ce qu'elle a de déformé, et surtout elle la porte à sa perfection en faisant qu'elle parvient à quelque chose auquel elle n'aurait jamais pu parvenir par elle-même. En conclusion donc de ces quelques mots sur la question de savoir si prier donc était naturel, la question qui nous occupait ce soir n'était pas celle de savoir si prier est naturel au sens où on dit parfois, où on emploie ce terme pour désigner quelque chose, un processus qui est spontané, facile, irréfléchi ou aisé. En effet, si la prière est un acte humain, elle ne peut être que le fruit de notre esprit et de notre liberté, de notre intelligence et de notre désir. C'est donc une démarche libre, une démarche volontaire, et qui est naturelle en ce sens-là, au sens, non pas au sens de spontané ou irréfléchi, mais au sens où c'est une expression de notre nature humaine. La prière, en ce sens, suppose notre nature, les animaux ne prient pas, avec ce que cette nature a de spécifiquement humain, qui est la nature de personnes intelligentes et libres. La prière chrétienne suppose cette nature. Elle l'assume, mais aussi elle la dépasse, exactement comme ce que nous fêterons le jour de Noël, à savoir le mystère d'une personne divine, le Fils, qui assume une nature humaine et qui l'unit à Dieu. La bonne nouvelle de la prière chrétienne est non seulement donc l'annonce de la prière qui est révélée par Dieu, mais ce faisant, c'est aussi l'annonce que, par là, la nature de l'homme s'accomplit. Une nature qui est capable de Dieu, mais qui est en attente de la révélation pour que cette capacité soit effective. Par exemple, il y a ce très beau texte de saint Paul dans la lettre aux Romains, au tout début, au chapitre 1er, où saint Paul dit que les païens sont capables de connaître Dieu par la création, ils sont capables de percevoir à travers les œuvres de la nature que ces œuvres de la nature sont précisément les œuvres d'un artisan, d'un Dieu créateur. Et pourtant, ce que dit saint Paul, c'est que alors même qu'ils avaient connaissance de cela, et c'est vrai que plusieurs philosophes grecs sont parvenus à l'affirmation d'un Dieu, et donc en ce sens-là ont eu une connaissance naturelle de l'existence de Dieu, alors même qu'ils savaient tout ça, pourtant, à travers la pratique de l'idolâtrie, ils n'ont pas reconnu, ils n'ont pas apporté à Dieu cette reconnaissance de la prière, alors même qu'ils en avaient une connaissance. La reconnaissance n'a pas accompagné la connaissance. Donc ça veut dire que ce potentiel qu'ils avaient de s'adresser à Dieu du fait qu'ils le connaissaient, ce potentiel n'a pas pu pleinement passer à l'acte. Il y avait eu déjà quelques bribes, mais ce potentiel n'a pu vraiment passer à l'acte qu'au travers de la révélation. Pour que la capacité religieuse de l'homme soit vraiment pleine et entière, effectivement, la révélation est indispensable. La prière chrétienne est donc surnaturelle, elle est au-delà de la nature. C'est un mystère de grâce, mais pourtant qui épanouit le naturel religieux de l'homme. Voilà, c'était ce qu'il me semblait important de transmettre ce soir, s'agissant de cette question de savoir s'il est naturel de prier. Quelqu'un parmi vous pose la question suivante: s'il est naturel pour l'homme de prier, pourquoi l'homme moderne ne prie plus? C'est vrai que derrière, le grand mystère, c'est celui de la modernité. C'est-à-dire, comment se fait-il qu'à partir d'un certain moment, l'homme n'ait été ni païen ni chrétien, mais qu'il y ait eu une troisième voie qui se soit comme ça ouverte, qui est d'être moderne. Au sens où, l'homme païen, on le connaît, c'est l'homme de l'Antiquité. Ensuite, l'homme chrétien, on le connaît aussi. Cet homme chrétien, il s'est confronté à tout cet héritage païen. Et puis, il y a un moment de l'histoire où il y a un troisième homme qui est apparu et qui est l'homme moderne. Cet homme moderne, en tout cas dans les formes qu'on lui voit prendre aujourd'hui, cet homme moderne peut être, il ne l'est pas systématiquement, parce qu'il ne faudrait pas avoir un regard beaucoup trop tranché là-dessus, parfois il peut être sécularisé. Et c'est tout à fait surprenant. Encore une fois, il ne faut pas non plus avoir un... Parce que par exemple, il y a des humanités modernes qui ne sont pas du tout, sécularisées au sens où elles n'ont pas du tout de problème avec l'expression religieuse de l'humanité. Je pense par exemple aux États-Unis d'Amérique qui par ailleurs donnent l'exemple d'une nation à la pointe de la modernité, par ailleurs très sécularisée, mais aussi avec une expression religieuse beaucoup plus présente et beaucoup plus assumée. Et donc, en tout cas ce que je retiens, c'est que l'annonce de la foi chrétienne, aujourd'hui, cette nouvelle évangélisation, tant attendue par les différents papes, eh bien, non seulement, ben, encore une fois, c'est l'annonce de ce qu'est la prière d'après la foi, mais ce faisant aussi, c'est la redécouverte par l'homme contemporain de sa vraie nature. C'est-à-dire que c'est un retour à ce qui constitue sa nature. Et certes, encore une fois, le naturel religieux de l'homme n'est pas grand-chose en comparaison de tout ce que la révélation apporte, mais néanmoins, c'est quelque chose, c'est quelque chose. Et en tout cas, la révélation, c'est aussi, quand l'annonce de la révélation, l'annonce chrétienne, c'est l'annonce aussi de la création. C'est-à-dire que en étant évangélisé, l'homme contemporain redécouvre aussi ce qu'est la création. Et donc, il découvre qu'il peut devenir chrétien. Mais il redécouvre ce faisant qu'il est une créature, qu'il a une nature, et que en l'espèce, cette nature comprend une dimension religieuse. Une question qui est posée aussi, hein, la prière va-t-elle au-delà de la nature? La prière surpasse-t-elle la nature? Oui, la prière dépasse la nature, parce qu'encore une fois, l'homme, par sa nature, peut découvrir que Dieu est provident. De là à dire que Dieu soit Père, ça c'est vraiment quelque chose qui vient de la révélation. De là à découvrir que Dieu, par exemple, puisse être une miséricorde infinie, ça dépasse. Que, par exemple, quand l'homme s'adresse à Dieu, finalement, il s'adresse non pas à une personne, mais à trois personnes, à une communion de personnes. Voilà quelque chose que seule la révélation peut apporter à l'homme. Et donc, en ce sens-là, bien sûr, la prière chrétienne permet de dépasser sa nature. Alors, pouvons-nous prier les prières des saints? Bien sûr que nous pouvons, et même que nous devons, en un sens, prier les prières des saints. C'est-à-dire que, même si, bien sûr, la prière du Christ est vraiment la référence, évidemment, de la prière chrétienne, néanmoins, ces prières des saints, ce sont au moins des aides et des trésors dans lesquels nous pouvons puiser pour alimenter notre prière chrétienne. Que conseilleriez-vous, que diriez-vous à une personne qui a un clair désir de prier, mais ne sait pas comment s'y prendre? Alors ça, c'est une question massive. Bien, moi, ce qu'on pourrait dire, c'est que, en fait, déjà, il faudrait peut-être distinguer entre la prière collective et la prière personnelle. Si c'est la prière personnelle, je pense qu'il faut vraiment commencer par le Notre Père, parce que c'est vraiment le cœur de la prière chrétienne. Ensuite, eh bien, il faudrait lui apprendre le silence, il faudrait lui apprendre que se tenir en silence, lire la parole de Dieu, c'est une voie pour entrer dans la prière. Je pense que notamment, il faudrait lui montrer aussi les gestes de la prière. Il n'en a pas été question ici, mais ça aurait pu aussi prendre sa place. Il est naturel de prier au sens où, c'est vrai que la prière chrétienne accomplit aussi le fait que l'homme étant âme et corps, eh bien, la prière chrétienne aussi va comprendre un usage du corps. Donc, par exemple, le fait de se mettre à genoux, le fait de joindre les mains, tous les gestes de la prière, le silence, la lecture de la parole de Dieu. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait un focus sur le Christ en prière, sur la contemplation du Christ qui prie. Et donc forcément, on est renvoyé aux psaumes aussi, puisque le Christ a prié les psaumes. Et puis ensuite, il faudrait aussi l'initier à la prière collective. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que de prier à plusieurs? Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Et donc, quelles sont les différentes formes de prière collective auxquelles cette personne pourrait être initiée? En sachant que peut-être que cette personne n'est pas du tout chrétienne, la première prière ne serait pas nécessairement la messe, qui est quand même une prière qui est d'abord conçu pour des chrétiens, mais donc il faudrait trouver d'autres formes. Par exemple, la prière des psaumes, la louange, l'adoration eucharistique, pareil, ce ne serait pas forcément une bonne idée dès le début, parce que l'adoration eucharistique suppose la foi eucharistique. Bref, il y aurait tout un chemin. Je pense qu'il faudrait aussi lui donner des outils entre les mains. Il y a un très bon outil là, dans la série des UCAT, qui s'appelle, je crois, le chemin de la prière, ou quelque chose comme ça. Et donc, il faudrait pouvoir s'en servir, parce que c'est un vrai guide de prière, et puis l'accompagner aussi personnellement. Voilà. Si la sécularisation est là, n'est-ce pas également une partie de la nature de l'homme? C'est une très bonne question. parce qu'elle suppose de répondre à une autre qui est de savoir si tout ce qui arrive à l'homme est le résultat de sa nature. Et en fait, ben non, il y a des choses que l'homme fait et qui ne sont pas l'expression de sa nature, mais qui parfois sont des choses qui eh bien, sont justement à côté ou contre sa nature. Ce qui est sûr, c'est que la sécularisation est une partie de l'histoire de l'homme, ça c'est clair. En un sens aussi, tout dépend ce qu'on entend par sécularisation, mais il existe un sens de sécularisation où on pourrait dire, en effet, s'il s'agit je dirais, de rendre séculières des choses qui avant étaient sacrées, en un sens, parfois ça appartient à la nature de l'homme, au sens où peut-être qu'on a sacralisé des choses qu'il ne fallait pas sacraliser, et en ce sens-là, il est bon de les séculariser, c'est-à-dire de redécouvrir ce qu'elles ont de séculier, et donc en ce sens-là, ce serait conforme à la nature de l'homme que de redécouvrir que, eh bien, telle ou telle chose qu'il croyait sacrée ou divine, en réalité, n'est que séculière. Mais si utilisé ici, enfin dans le sens où on l'a utilisé ici, c'est vrai que ça n'est pas parce qu'une chose arrive, en tout cas dans l'histoire de l'homme, qu'elle est une expression de sa nature. Pour toute la tradition, c'est clair que par exemple, quand l'homme fait le mal, eh bien, il ne réalise pas sa nature. Par exemple, ça n'est pas pour rien qu'on dit d'un acte mauvais qui peut être inhumain, et pourtant il le fait d'un homme. Comment se fait-il qu'un homme puisse faire une chose dont on dit qu'elle est inhumaine? Eh bien, c'est possible, ce vocabulaire a un sens, en tout cas pour qu'il ait un sens, il faut admettre que l'homme puisse faire quelque chose qui ne soit pas naturel, qui soit même contre sa nature ou parfois à côté seulement de sa nature. Et donc, en ce sens-là, il faut admettre que certains processus historiques, eh bien, sont pas dans le prolongement de la nature de l'homme, mais parfois dans une autre direction que celle de son expression. Et puis je vais prendre une dernière question, hein. Que pensez-vous de la prière répétitive comme les chapelets à l'enfant Jésus et tant d'autres? Alors c'est vrai que là-dessus, ça fait penser à ce passage dont il aurait pu être question. Merci d'avoir posé cette question parce que ça permet de dire qu'effectivement, un des signes qui permet de voir que la prière chrétienne n'est pas uniquement une sorte de prolongement de la prière naturelle, c'est que dans le passage du sermon sur la montagne, quand le Christ parle de la prière, eh bien, il met en contraste la prière qu'il souhaite avec la prière des païens. Il dit ben, ne rabâchez pas comme les païens qui, eux, croient que c'est à force de parole qu'ils pourront se faire entendre. Et donc, sous cet aspect-là, c'est vrai que parfois on se dit mais si le Christ a dit ça dans l'Évangile, comment se fait-il qu'il y ait des formes de prière chrétienne qui consistent en des répétitions? Et donc par rapport à ça, et je pense qu'il faut être très clair, c'est que ce qui est visé dans ce passage de l'Évangile, ce n'est pas tellement la répétition en tant que telle. Ce qui est visé, c'est la croyance d'après laquelle plus on va répéter, plus Dieu va entendre. Ça, c'est une croyance païenne, parce qu'en fait, Dieu, de toute façon, entend notre prière, et on ne prie pas pour faire connaître à Dieu notre demande. On prie Dieu pour se rappeler à soi-même que eh bien, nous sommes dans l'attente et dans la dépendance de Dieu pour que ces demandes soient réalisées. Et donc, en ce sens-là, enfin, c'est comme ça qu'on peut comprendre le passage de Saint Matthieu, et donc qui permet de voir que les prières répétitives, comme par exemple le chapelet, eh bien, n'ont pas pour sens, je dirais, d'accumuler les paroles pour qu'à la fin, vraiment, on soit bien sûr que Dieu est compris, mais elles sont là pour nous habiter, pour nous mettre, nous-mêmes, dans un climat je dirais, d'unification de notre prière, et pour que cette prière puisse vraiment s'imprimer en nous et trouver sa son, comment dirais-je, sa oui, sa forme unique. C'est-à-dire que au travers d'un chapelet, quand bien même il y a un nombre très important de « Je vous salue Marie », à la fin, eh bien, ça nous permet de dire que le cœur de notre prière était contenu dans un seul « Je vous salue Marie ». Et donc, il y a quelque chose de l'ordre d'une connaissance de l'âme humaine qui justifie qu'on ait besoin comme ça d'entrer dans cette répétition. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas dans ce que dénonce le Christ dans l'Évangile. Voilà. La prière, donc, pardon, une dernière question, parce que je crois qu'on a encore un peu de temps. La prière est donc dans la nature de l'homme, mais comment comprendre parfois notre crainte de rester en silence devant Dieu, pourquoi le silence peut faire peur? Alors, là-dessus, on peut répondre aux deux choses. D'abord, ce qui est sûr, c'est que notre nature, encore une fois, n'existe pas à l'état, je dirais, dans l'état dans lequel elle est sortie des mains de Dieu, puisque notre nature est blessée. Donc ça veut dire que blessée, ça ne veut pas dire supprimée, annulée ou anéantie, mais ça veut dire qu'elle n'est pas entièrement elle-même. Et donc, alors même que notre nature est tournée vers Dieu, eh bien c'est vrai que parfois, quand on est devant Dieu en prière, on peut être pris par la crainte, et par la crainte notamment du fait que devant nous, il n'y ait pas Dieu, mais il y ait le vide. Et donc cela, c'est sûr qu'il faut l'affronter, et ça vient du fait qu'encore une fois, notre nature n'est pas intègre, et qu'elle est... Elle a besoin justement de la grâce pour être elle-même. Et donc, elle fait que quand on est face à Dieu, eh bien on est face à un, bon, dans tous les cas, face à un mystère, mais que parfois ce mystère, qui pourtant est le mystère de la plénitude de l'être, eh bien, nous apparaît comme étant le vide. Et le vide fait peur. Voilà. Ensuite, pourquoi le silence fait peur? Mais il fait peur parce que de toute façon, nous sommes faits pour la parole. En aucun cas, la mystique chrétienne n'est une mystique du silence pour le silence. Parce que Dieu est parole. Et donc, le silence est nécessaire pour que la parole puisse se déployer. Il est nécessaire aussi pour écouter. Et c'est vrai que c'est pour ça que le silence de la prière est important, parce que seul le silence permet d'écouter. Mais le silence n'est pas de lui-même quelque chose de positif. Et donc c'est pour ça qu'il faut être assez méfiant à l'égard de tous ces, de je dirais de comment dirais-je, de toute cette insistance parfois excessive sur le silence, alors même que notre Dieu est parole et que nous-mêmes sommes doués de parole, et que quand bien même nous serions en silence, eh bien ce silence, c'est un silence qui permet un échange, et un échange entre la personne que nous sommes et les personnes que sont Dieu, eh bien ça s'appelle un dialogue. Voilà, c'est-à-dire une communication de parole. Et donc le silence fait peur parce que nous ne sommes pas faits pour le silence. Néanmoins, comme nous sommes faits pour la parole, nous avons besoin de ce silence. Et ce silence, il peut parfois nous saisir parce qu'il nous renvoie là aussi à notre petitesse, il nous renvoie à notre condition de créature, nous renvoie au fait que nous nous sentons bien impuissants, ou que, au travers du silence aussi, beaucoup de ce qui fait notre finitude, beaucoup de nos souffrances intérieures aussi ressort. Et donc, en cela, c'est un moment de vérité. Mais c'est un moment de vérité qui, justement, est appelé à être dépassé par la prière, qui est échange, et qui est non pas là pour combler le silence, mais qui est là pour que ce silence soit dépassé. Voilà. Eh bien, je vous remercie beaucoup de votre attention. Je pense qu'il va être l'heure de se quitter. Eh bien, je vous souhaite une très belle deuxième semaine d'Avent, un très beau troisième dimanche de Gaudete, de la joie. Et nous nous donnons rendez-vous donc la semaine prochaine pour la suite de ce parcours d'Avent autour de la prière. Bonne soirée, merci.